Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Bonjour à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis sur RMC. Avec au programme Cincinnati, le Masters 1000 américain, pour vous aider à parier sur les 4 matchs du jour, dont un concerne un Français, Arthur Fils, face à Alex de Minaur. J'accueille Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Eric, tu dois une revanche à nos auditeurs, puisqu'hier, le bilan n'est pas bon. 1 sur 4, Nakashima a bien battu Medvedev. Tu avais joué un outsider, tu avais bien fait. Victoire de Nakashima, qui continue sur sa lancée. La cote était à 2,15. En revanche, Rublev n'a pas battu Borges. Bon, là, c'était quand même une grosse surprise. Je pense que j'aurais fait comme toi, j'aurais joué Rublev. Zeng Musetti, c'est Musetti qui s'est imposé. Alors là, tu avais donné Zeng, tu avais tenté une surprise. Et puis sur le match le plus équilibré entre les deux Américains, Tin et Tiafoe, tu avais joué Tin et c'est Tiafoe. Donc c'était une sale journée hier, Eric.
Oui, et encore, je m'en tire bien, puisque Medvedev a eu 3 balles de match contre Nakashima.
Tu as 2 doigts du 0 pointé.
Absolument. Non, bah écoute, j'avoue que même pendant mon commentaire hier, je me disais que je faisais une bêtise sur Musetti. Bon, voilà, bah, je suis puni. Non, en revanche, Rublev, oui, c'est la grosse surprise quand même. Il prend 2-7. Ouais. Et la punition, c'est que, et c'est une info quand même assez folle, il va sortir du top 20 pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Ouais. Donc là, c'est le début de la descente aux enfers. Hein. Ouais. Et puis, Tiafoe. J'avais quand même noté, j'avais dit aux auditeurs qu'il avait très bien joué au tour précédent, il s'était fait enlever un kyste au poignet, à la main, et visiblement, ça va beaucoup mieux. Hein. Mmh. Ouais, il a battu le petit Tigne en 3-7, 6-4 à la belle. Intéressant, Tiafoe qui repointe le bout du nez.
On va en parler aujourd'hui, hein, il va jouer aujourd'hui.
Ouais, c'est un beau match.
Mais le match qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est Arthur Fils contre Alex de Minaur. Alors, je dois avouer que j'ai été surpris en voyant les cotes, parce qu'Arthur Fils, 21e, est favori à 1,54 contre Alex de Minaur, qui est 8e mondial, qui lui est à 2,55. Il y a une grosse différence. De Minaur mène 2-1 dans les confrontations, une cette année à Rotterdam en tout début de saison en indoor. Et c'était de Minaur qui s'est imposé 7-6-6-2. Sinon, il y avait Wimbledon en 2024, victoire de Minaur en 4 manches. Et 2024, il y avait eu une victoire de Fils à Barcelone, le 7-5-6-2. Mais après étude des derniers matchs, de la forme actuelle, de la dynamique, en fait, je me disais, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de jouer Fils. Mais du coup, je regrette qu'il soit favori. Il a battu Hanfmann, il a battu Lechka. Il a 28 victoires pour 10 défaites. Et surtout, il est bon, on le répète là depuis quelques semaines, il est bon dans les Masters 1000, hein, demi à Madrid, et puis surtout sur dur, car à Indian Wells, demi à Miami, c'est plutôt bien ce qu'il fait. Et du coup, il a perdu que 2 matchs sur les 7 disputés depuis Wimbledon sur le ciment nord-américain, mais les 2 fois, c'était contre Rodar. Donc son bilan est plutôt bon sur le ciment nord-américain depuis le début de l'année avec 12 victoires et 4 défaites. Celui de Minaur, en revanche, il est beaucoup moins bon. C'est 6 victoires et 5 défaites. Et des défaites contre Kipson, Nori, Tsitsipas, Nakashima en quart à Washington et Nori encore une fois sur le Masters 1000 de l'Open du Canada à Montréal. Donc pour toutes ces raisons, il faut peut-être jouer Arthur Fils quand même, Eric. Parce que de Minaur n'est pas au mieux du tout, je dirais même.
Moi, j'avais pas besoin des cotes pour jouer Fils, hein, franchement.
Oui, mais tu n'as pas été surpris de voir que les cotes étaient tant à l'avantage de Fils.
Écoute, quand tu l'as dit, hein, la feuille de perf de Minaur depuis certaines
c'est
semaines,
bon.
C'est pas bon du tout.
Voilà.
Et en plus, il y a.
Moi, que des contre-performances.
Je me souviens de sa conf de presse. À Wimbledon après sa défaite contre Koboli, il était au fond du trou et il le disait il était en pleine déprime, quoi. Alors il y a eu une petite embellie parce qu'ensuite il s'est marié avec Katie Boulter, bon là ça permet de ne pas penser trop au tennis. Mais il a rechuté contre Nori, puisque ce que tu n'as pas dit c'est qu'il mène 7-5, 5-2 balles de match.
Ouais,
il fait notamment double faute sur la première balle de match et que
il
là,
perd 2 fois contre Nori d'ailleurs cette année.
Oui,
à Indian Wells et à Montréal.
envoie un message aux Britanniques pour qu'ils doivent dire, mais oh là là, il n'est pas bien l'Australien. Il a 27 ans. Je pense que son jeu est très énergivore et qu'il est en train de payer un peu tous les efforts depuis le début de sa carrière. Alors attention, c'est un super joueur, moi j'adore. Hein. Mais tu te rends compte qu'il n'a jamais atteint une demi-finale en Chelem ?
Ben oui, j'ai toujours dit qu'il avait un plafond de verre, là, 6e, 7e mondial, voilà. Même si parfois il a été 5e, mais parce que les autres dégringolaient.
Ça lui pèse. Et puis, Arthur, tu l'as dit, en Masters 1000, c'est top, quoi. C'est top. Je viens d'écrire un petit papier sur le web d'RMC, là. Il a l'occasion d'égaler une stat assez folle, à savoir devenir le premier Français depuis Joe Tsonga en 2012 à atteindre 5 quarts de finale en Masters 1000. Ouais. Et encore, Joe avait dû attendre Shanghai et Bercy pour pousser à 5. Tu vois. Lui, il peut déjà avoir 5 quarts à la mi-août. Mm. Avec encore Shanghai et Bercy. Enfin, Bercy, pardon, la défense.
5 quarts, et sur ces 5 quarts, il y a quand même 2 demi.
2 demi, absolument. Alors que Joe, j'ai vérifié, n'avait jamais atteint les derniers carrés sur les 5 Masters 1000 où il avait atteint les quarts. En plus, il y a une autre stat qui est intéressante. C'est qu'il adore les formats de 7 gagnants et qu'il est injouable quand il y a un 7 partout. C'est-à-dire qu'il est à 9 sur 9 quand il y a un match en 3-7. C'est pas mal, ça.
Ah oui, oui.
Bon, maintenant, que contre Deminor, c'est intéressant de le souligner. Je ne suis pas sûr, parce que Deminor, on connaît sa
résistance. Il est pas mal non plus sur les 3 manches.
Il est pas mal. C'est un mec qu'il ne faut pas les chatouiller sur des matchs de 2 ou 2h30, 3h.
Mais il a peiné contre Alice et Ferry. Quoi.
Voilà, j'allais y venir. Il a peiné contre Alice, il s'en sort à l'énergie.
C'est le troisième. Hein.
Mais je ne l'ai jamais vu s'encourager comme ça pour faire 6 partout, toi, ou prendre un point dans le terrain. Ce qui prouve qu'il sait qu'il n'est pas au top. Il sait qu'il n'est pas au top et c'est tout à l'arrache. Et quand tu regardes Arthur Fils, c'est puissant, c'est costaud. Franchement, il aurait dû mettre 2-7 à l'HK. Il a un peu déconné, à mon avis, à mon goût. Mais bon, il s'est bien pris dans le troisième. Moi, je comprends la cote et je fonce. Je pense que si Arthur est à 100%, il va imposer sa puissance. Il est fort en fond de cours. En revers, il va tenir la cadence. Il n'y a pas de problème. Son coup droit est bien meilleur que celui de Deminor. Il sert mieux que Deminor. Franchement, moi, je...
Donc, tout est réuni pour qu'il s'impose 2-0, tu penses ?
Ça, je ne sais pas. Mais...
Enfin, c'est 2-10.
Mais 2-0, c'est 2-10. Oui, mais enfin, bon, ce serait con de prendre des risques. Ouais. Mais bon... Moi, je
pense en tout cas, on est d'accord. Arthur Fils va aller en quart de finale.
On l'espère. On croise les doigts. C'est un match qu'il faut suivre. Il aura lieu vers 20h30, 21h. Mm-hmm.
Frances Tiafoe va jouer contre Félix Auger-Aliassime. L'Américain 23e mondial contre le Canadien 4e. 2,50 pour Tiafoe, 1,41 pour Félix Auger-Aliassime qui mène 3-1 dans les confrontations. Mais attention, elle date de 2021 et 2022. US Open, Barcelone et Bercy. En 2022, mais la victoire de Tiafoe, elle est récente, c'est cette année, 7-6 au troisième à Halle. Alors évidemment, on était sur gazon, c'est pas la même surface que le ciment nord-américain, mais c'est pas si bien que ça, en fait, pour un quatrième mondial, Félix Auger-Aliassime, sur le ciment nord-américain, 8 victoires, 4 défaites cette année, meilleur perf, demi-Dubaï, donc quand on est 4 mondiales et qu'on fait pas une finale, c'est embêtant. Enfin, quand je dis fais pas une finale sur les tournois sur dur. Mais bon, je le vois quand même s'imposer contre Tiafoe, qui a un bilan moyen lui aussi, mais toujours bien placé, mais jamais gagnant. Quoi. Finale à Acapulco, 8e à Indian Wells et à Miami, il fait un quart. Il perd au troisième tour quand même contre Rinderknecht à Montréal et contre Atman à Washington. Donc je me dis que logiquement, Auger-Aliassime doit gagner, mais ça peut faire 3-7. Peut-être c'est pas mal de jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur. Ça, c'est coté à 2-10. Mais si je dois vraiment donner un gagnant, bah, je vais aller sur le Canadien.
Oui, c'est un match de poids lourd, hein. C'est clair. Hein. C'est une superbe affiche. Alors, Auger-Aliassime, c'est vrai que c'est un peu décevant. Il y a eu pas mal de mouvements autour de lui, puisqu'il a mis fin à sa collaboration avec Frédéric Fontan. Et apparemment, il est en autogestion, il est tout seul, il n'a pas repris de coach. Il a eu la malchance de se blesser juste avant son entrée en lice à son tournoi à Montréal. Donc, c'était terrible pour lui de ne pas pouvoir jouer à la maison. Mais évidemment, bon, ce n'était pas si méchant que ça, puisqu'il était très bon au tour précédent. Il est percutant, Félix, on le sait.
Il n'a pas perdu le set contre Tsitsipas et Cerundolo.
Ouais. Mais c'est vrai que pour un 4 mondial, on attend mieux.
Ah bah
mais
oui.
Mais attention, attention, il peut être très dangereux à l'US Open. Il a fait demi-finale l'an passé. C'est un garçon qui adore le dur. Il adore les conditions de jeu rapides. Et là, c'est le cas à Cincy. Parce qu'il peut s'appuyer quand même sur un service.
Ouais, il va gagner contre Tiafoe.
Écoute, je pense que il faut se méfier de Tiafoe parce que visiblement il s'était raté à Washington et Montréal, mais maintenant on sait pourquoi, c'est que vraiment il était gêné par ce kyste au poignet. Il a pris la décision de passer sur la table d'opération très vite et le mec rétablissement miraculeux quoi. Enfin bon, maintenant la médecine fait des miracles hein. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant quand tu viens de passer sur le billard. Quoi. Mmh. Ça devait être pas si méchant que ça, mais ça le gênait. Écoute, je vais jouer Félix en 3, oui, ça me paraît être un bon choix.
3-25 pour la victoire du Canadien en 3 manches face à Tiafoe. En tout cas, on est d'accord sur le succès du 4e mondial. On va passer à un autre match sexy, intéressant, pourtant avec des cotes très déséquilibrées. C'est Zverev qui va jouer contre Tommy Paul, le 3e mondial contre le 24e. 1-34 la victoire de l'Allemand, 3-35 la victoire de l'Américain. Et là, ça m'a surpris. Il mène Paul contre Zverev. 2-1. 3 matchs, il y a eu 3 tie-breaks d'ailleurs à souligner. Le tie-break est à 1,82, on peut y penser. Mais c'est vrai que les victoires de Paul commencent à dater. 2020 à Acapulco, 2022 à Indian Wells. 7-6 au 3e, donc ça avait été super serré. Et puis, ils se sont joués à l'Open d'Australie l'année dernière. Et c'était Zverev qui s'était imposé en 4 manches. Depuis, Zverev a encore progressé. Il a même gagné Roland-Garros. Il a 25 victoires sur les 30 derniers matchs. Il a perdu un set contre Norri, mais ensuite, il a battu Atman 2-0 avec 2 tie-breaks. C'est un joueur hyper régulier. Quand je vois finale à Madrid... En plus de la victoire à Roland. Hein. Demi-finale, alors finale à Madrid, il perd contre Sinner. Demi-finale Monte-Carlo, Sinner. Demi-finale Munich, Coboli. Demi-finale Miami et Indian Wells, Sinner 2 fois. Demi-finale Open d'Australie, Alcaraz. Donc, à part Coboli, il ne perd que contre les 2 meilleurs sur ces tournois-là. Il a perdu aussi contre Fritz en demi-finale à Halle. Je vois Zverev s'imposer, mais 1,34, je trouve que c'est pas terrible. Donc j'envisagerais un succès avec, je sais pas, au moins 20 jeux, plus de 19 jeux dans le match pour quasiment doubler la mise. Le plus de 22 jeux, c'est 2,35. Donc le plus de 19, ça doit être aux alentours de 1,80. Je vois pas une balade, une promenade de santé de Zverev face à Paul.
Non, mais Zverev, c'est un mec qui a maintenant une telle expérience, il panique jamais. Puis voilà, il est libéré d'un poids et ça se voit, ça se sent.
Ouais, c'était d'avoir gagné Roland, c'est ce qui lui manquait.
Ouais, Wimbledon, il était très bon. Je pense qu'après, il a vraiment...
Finale contre Sinner aussi.
Ouais, il a pris le temps de souffler, de prendre de bonnes vacances parce qu'il en avait besoin et qu'il savait qu'il fallait, couper avant d'attaquer la... à le gros morceau de l'US Open. C'est pour ça qu'il s'est planté contre Grispour à Montréal. Mais je l'ai trouvé pas flamboyant contre Atman. Atman a fait un très bon match. Mais voilà, il s'en est sorti à l'expérience. 7-6, il a attendu les fautes adverses. Et ça peut être le même cas de figure tout à l'heure, enfin ce soir, ou dans la nuit, je crois que c'est un match de night. Non, c'est pas la night, je suis un combat. Ça peut être le même cas de figure contre Tommy Paul.
Non, c'est en fin d'après-midi. Début de soirée, ça. A priori.
Ouais, ils l'ont pas mis en night. Okay. Tommy Paul, c'est un peu décevant hein, depuis certains temps. Est-ce que c'est lié à son mariage? Je sais pas. mais faut se méfier parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, quoi, puis qui joue à la maison. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de jouer la surprise? Parce qu'il y a un moment, il va péter un truc, Tommy Paul. Il a trop de talent pour ça. Mais c'est vrai qu'il passe à côté des grands rendez-vous. On se souvient de son match fantastique contre Arthur Fils à Miami où il avait perdu en ayant des boîtes de match. C'est pas la fête au village pour tout de suite pour Tommy Paul.
Eric Zverev, il doit gagner le tournoi logiquement là.
Il y a encore du bon. Hein.
Oui, mais il n'y a pas Sinner, il n'y a pas Alcaraz.
Oui, je sais.
Mais bah, bon, il est 3 mondial, donc il va gagner.
D'abord, d'un sujet, moi j'ai regardé un peu le classement ATP, j'en ai touché un mot hier. Je pense qu'au fond de lui, il se dit que la place de numéro 1, c'est peut-être maintenant qu'il faut la choper. Parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Sinner. Est-ce que Sinner va jouer l'US? On ne sait pas. Est-ce que Alcaraz va jouer l'US? On ne sait pas. Si Sinner ne vient pas, il va avoir une fenêtre de tir, Zverev. Donc il ne faudrait pas qu'il se trompe. Donc s'il peut prendre 1000 points de Cincinnati, effectivement.
Bah là, oui. ça me paraît très logique qu'il gagne. Là. Puisqu'il ne perd que contre Sinner et Alcaraz à 90%.
Ah oui, enfin bon, c'est une surface qui est très rapide. Il y aura des pièges à déjouer, mais je suis d'accord avec toi.
Ouais, il y aura Fritz, peut-être.
Fritz est très bon. Fritz est très bon sur dur. Nakashima.
Pourquoi pas Arthur Fils, on espère.
Pourquoi pas Arthur? Alors oui, on va jouer Zverev, mais je pense que ça peut faire un long match. Zverev en 3.
Donc oui. Alors en 3, c'est 3,25. Et ma formule à plus de 19 ou plus de 20 ou plus de 21, ouais, je te prends aussi pour doubler la mise.
Il y aura du tie-break dans l'air, moi, je crois pas.
Ouais.
Possible, ça.
Oui, tout à fait. Bah, je te dis, il y a eu 3 tie-breaks sur 3 confrontations. Ah, parce qu'il y a eu une confrontation, il y en a eu 2. Et le tie-break est à 1,82. Donc, c'est quand même une très grosse cote pour un tie-break entre ces deux joueurs. Donc, victoire de Zverev, on est d'accord sur tout, et ça va continuer, je pense, puisque sur le match entre Nuno Borges et Brandon Nakashima, c'est l'Américain 22e mondial qui est favori à 1,52, alors que le Portugais 47e est à 2,20, aucune confrontation entre les deux joueurs, ça va être une première aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait de bon sur dur, Borges? Un quart de finale à Hong Kong, un huitième à Montréal. Alors c'est bien depuis son arrivée sur le circuit nord-américain, sur le ciment, là, depuis Wimbledon, puisqu'il a battu Kokkinakis en 3 manches, Cerundolo en 2 et Rublev 6-3, 6-4. Mais Nakashima, c'est encore mieux. C'est 10 victoires en 12 matchs depuis Wimbledon sur le ciment nord-américain, avec une demi à Washington battue par Fritz et une finale sur l'Open du Canada où il a perdu contre Shelton. Il est vraiment de mieux en mieux parce qu'il s'était un peu raté à Miami, à Indian Wells avec un deuxième tour, un troisième tour. Donc pour moi, Nakashima, c'est quasiment un coup sûr. Et à 1,52, il faut foncer. Je suis surpris, tu vois, que Nakashima soit à 1,52 alors que Fils est à 1,54 et Zverev à 1,34. Pour moi, c'est plus sûr Nakashima que Zverev et Fils. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, attention, parce que Nakashima joue beaucoup. Donc, il y a un moment, il y a le coup de fatigue qui peut arriver. Hein. Ouais. Donc, le match d'hier, mentalement, il a laissé des traces. Parce qu'il est quand même
contre Medvedev, bord du gouffre. Hein.
Moi, j'ai vu le Money Time, il est quand même à 6-5 contre lui, 0-40. Contre un Medvedev qui jouait parfaitement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un truc qui a changé chez Nakashima, parce que ses 3 balles de match, il les joue à la perfection. Et il arrive à faire tourner le match. Et je pense que j'ai lu ça ce matin et je me demandais depuis quand ils travaillent ensemble. Il a embauché Wayne Ferreira depuis juste après Wimbledon.
L'ancien joueur sud-africain.
Et oui, mais Wayne Ferreira, c'est un top coach. C'est un top coach. Et le changement, on le voit, il est brutal presque. Hein. Parce que c'était un garçon qui était, je ne vais pas dire insignifiant, mais quand j'ai regardé ses perfs en chelem, mais il n'y a rien. Il n'a jamais pété un truc en chelem. Et là, tout d'un coup, depuis un mois...
Oui, il y a eu un déclic.
Ah bah oui. Alors, je ne sais pas ce que Ferreira lui a fait, mais Ferreira lui a peut-être demandé de...
Il l'a bien fait.
De muscler son jeu, mais là, la transformation, elle est flagrante. On avait un môme qui était sympa à voir jouer, mais bon, qui perdait contre les mecs contre qui devaient perdre.
Et là, zéro contre-performance depuis Wimbledon.
Et oui. En plus, il est sur sa surface de prédilection. Il arrive à la maturité. Donc Borges, c'est très bien.
Public.
Ouais, le tennis portugais se porte bien puisqu'ils ont un autre joueur en 8e, c'est Faria là. Ouais. Mais Borges, c'est très solide. C'est très solide. Mais voilà, ça va pas plus loin quoi. C'est pas génial quoi, Borges.
Oui, non mais il y a aucune demi-finale.
À condition qu'il ait bien récupéré de son match contre Medvedev parce que pas simple hein, ce qu'il a fait hein. Et on a une pensée pour Dani, parce que là, putain, il revenait bien. Hein. Franchement, il était 7-6, 6-5, 0-40. Tu te dis, ça y est, c'est dans la poche, il a un nouveau coach, il est en train de trouver des solutions, et paf, derrière, il prend 6-1. Quoi. Ouais.
Ok, bah écoute, une fois n'est pas coutume, nous allons jouer les quatre favoris. Et on est tous les deux d'accord sur les victoires d'Arthur Fils contre Dominor, de Ogier Aliassime face à Tiafo, de Zverev contre Paul et de Nakashima face à Borges. Merci beaucoup Eric. La suite des paris RMC, eh bien, c'est demain sur les quarts de finale de Cincinnati. Salut à tous.
Ciao.